Voilà, comme ça. Oui, ça va.
Alors, la caméra,
pas de côté.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded,
sir. Che fa, aggredisci?
Che è passato qua? Che è
passato? It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi 13, adeptes de la chance ou de l'horreur, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance car c'est Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, pour nous parler des films à l'affiche, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Clotilde. Salut Clotilde.
Salut.
D'Alexis, bonjour.
Hello.
De Cathy, on l'espère bientôt dans ce studio, et puis aussi René par la voix de la télétemporalité qui nous a laissé un petit message puisqu'il est allé voir au boulot. Et puis bien sûr, toujours derrière la vitre, Sylvain. Salut Sylvain.
Salut.
Alors vous venez tous les 3-4 pour discuter de Vin Dieu au boulot, spectateur, on pourrait le dire, spectateur au boulot, Vin Dieu, ça marche aussi. En tout cas, on parle de cinéma français, de jeunes pousses, de vieux conteurs d'histoire et peut-être même de mal toxique et de vieux briscards de la lutte sociale. Et on va commencer, alors j'allais dire place aux jeunes, mais on va attendre Cathy et on va... Allez. Décaler un petit peu l'âge et on va au boulot d'abord. On écoute la bande-annonce dans son intégralité et puis René qui nous parle du film Au boulot.
Mes impôts n'ont pas à payer la médiocrité de ceux qui ne veulent rien foutre. On rhume une angine et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses?
Je viens ici pour une invitation amicale à Madame Salma que vous veniez vous installer pendant un mois, deux mois avec le SMIC. Ce que je veux faire, c'est la réinsertion sociale des riches.
C'est pas un gros croque-monsieur. C'est un croque-monsieur raffiné à la truffe, aucun rapport.
30 secondes, 30 secondes.
J'accélère, j'accélère. Les talons, finalement, peut-être que c'est pas si approprié. C'est peut-être un peu inadapté.
Frotter, frotter, mieux vaut ne pas si. Frotter, frotter. Si tu ne me connais pas.
J'ai toujours rêvé de me faire servir par la grande bourgeoisie.
2890 pour la veste, ça va.
Ah là, je suis tellement bien ici.
C'est bien ou pas?
Non, c'est pas bien.
Emballer des poissons toute la journée, je vois même pas comment on peut dire que c'est un métier passion.
Bah si on n'a pas ça, on n'a rien, nous, par ici.
Bonjour, collègue.
Vous avez payé combien?
1000 euros. Mais j'ai surtout le besoin de me sentir utile auprès des autres.
On a aussi la vie qu'on décide d'avoir.
C'est pas moi qui ai arrêté l'école, c'est eux qui m'ont arrêté. Le système Parcoursup est Mathieu.
Il y en a qui sont assistés, qui restent dans leur canapé à rien faire.
Pourquoi aussi? Pour eux, ils sont plus rien et c'est plus qu'un numéro.
En 2012, j'ai été licenciée à cause économiquement. Mais fallait que je bouge, fallait que je travaille, j'ai toujours travaillé.
Après, on a les rêves qui commencent à revenir.
Est-ce que tu peux encore prononcer le mot assisté à la télévision sans penser au visage de Nathalie?
Sarah Salman, est-ce qu'elle a vraiment changé?
On s'en fiche.
C'est pas le sujet. Le sujet, c'est les gens.
Alors, au boulot. Au boulot, le film de François Ruffin. C'est un film qui s'ouvre sur une émission de télévision, de radio plutôt, j'allais dire de télévision, de radio, Les Grandes Gueules. Et on voit Sarah Salman, une journaliste, qui déblatère sur les gens d'en bas de l'échelle, les obscurs, les petits, les sans grade. Et qui les traite d'assistés, de feignasses. Le SMIC, c'est déjà pas mal. Et autres joyeusetés. Et c'est là qu'intervient François Ruffin, qui lui fait la proposition suivante. Je vous demande d'essayer de vivre, Madame Salman, pendant 3 mois, avec 1300 euros. Elle finira par accepter de tenter l'expérience, mais je crois que c'est pendant une semaine, en tout cas pas pendant 3 mois. Voilà, voilà le résumé d'un film dont le propos semble être « Est-ce que les nantis, ceux d'en haut de l'échelle, peuvent non pas peut-être se mettre à la place de ceux d'en bas, mais au moins essayer de comprendre ce que vivent ces gens qui se retrouvent à découvert le 15 du mois et qui font des métiers pénibles, essentiels pour nous tous. On pourrait aisément se passer des traders, des financiers, mais que deviendrions-nous sans les gens qui s'occupent des personnes âgées, qui préparent la nourriture que nous consommons, ou sans les bénévoles qui s'activent dans les différentes associations caritatives, Secours Populaire, Secours Catholique, Resto du Cœur, Aubenas Partage, la Croix-Rouge, les Maraudes et tout ça. Et en creux, c'est la question que pose ce film. Alors, une des qualités principales du film, c'est qu'il ne se contente pas de nous montrer ces gens en train de travailler, il leur donne la parole et longuement. Alors, bon, on pourrait s'attendre à des jérémiades de leur part. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ces gens témoignent de leur volonté de progresser, pour certains d'entre eux, du bonheur qu'ils ont à faire leur métier. Ces gens-là ne se plaignent pas. Je pense en particulier à deux femmes auxquelles François Ruffin a donné longuement la parole. Cette femme qui s'occupe de personnes âgées et qui dit sa joie de se sentir utile. Alors qu'elle fait un boulot, comme elle dit, c'est pas tellement rigolo de nettoyer des excréments, de s'occuper de masser des personnes âgées qui ne vous comprennent pas. Mais ça fait rien, je me sens utile et elle en est transportée littéralement. Ou cette autre femme qui dit son bonheur d'avoir retrouvé un emploi après une longue période de chômage due à des problèmes de santé. Et là aussi, on est stupéfait parce qu'on voit bien qu'elle ne gagne pas des 100 et des 1000. Je disais 1300 euros, c'est à peu près ce qu'elle doit gagner. Mais elle, comme elle dit, ben maintenant je m'en sors, j'arrive à faire des cadeaux à mes petits-enfants, j'arrive même à mettre un peu d'argent de côté. Voilà. Alors, cette proposition que Ruffin a faite, cette journaliste, on la voit qui s'active, hein, elle met la main à la pâte puisqu'elle accepte le pari que lui propose Ruffin. Ses yeux se dessillent un peu, les écailles lui tombent un peu des yeux au fur et à mesure qu'elle met la main à la pâte, bien maladroitement d'ailleurs. Mais bon, ça va pas très loin. Alors, elle a pas l'air très convaincue. Bon, je n'en dirai pas plus là-dessus parce que je ne voudrais pas dévoiler la façon dont évolue le film. Alors bon, avec toutes ces qualités que je viens d'énumérer, on peut quand même émettre quelques réserves sur le film. D'abord, sur le plan formel, bon, le scénario est quand même assez banal. On passe d'un coin de France à un autre, d'une entreprise à une autre. Et du point de vue purement formel, ça rappelle plutôt un tour de France des éprouvés et un reportage télévision plutôt qu'un documentaire solidement charpenté, il faut bien le dire. Et puis enfin, et c'est personnellement ce qui m'a posé le plus problème, c'est le rôle que joue Ruffin dans cette entreprise. Il est, à mon avis, beaucoup trop à l'écran. Il se donne le beau rôle, malgré tout. À son corps défendant, sans doute, mais il se le donne quand même. Pour nous montrer combien cette journaliste reste dans sa tour d'ivoire. On dirait presque qu'il est lui-même un de ces smicards, alors que, pour autant que je sache, ce n'est quand même pas le cas. Ce qui fait que le film est quand même un peu beaucoup démonstratif. Ruffin commente beaucoup, et je pense que les spectateurs que nous sommes n'avons pas besoin de tous les commentaires, un rien pédagogique qu'il nous délivre. On n'a pas besoin de tout ça, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, alors bon, ce que je viens de dire est peut-être un peu sévère, et je ne voudrais pas que ça occulte l'impression globale qui est positive que m'a fait ce film. Encore une fois, ces portraits de petites gens qui travaillent dur, qui accomplissent des tâches essentielles pour le bien de tous, et tout ça pour des salaires ô combien insuffisants, ça m'a paru très émouvant et surtout utile. Bien sûr, il y en a qui feront la fine bouche, qui diront « Ah oui, mais ça, on le sait. » Ben, je ne sais pas si on le sait. En tout cas, Ruffin nous le rappelle. Et ça, c'est vraiment peut-être ce qui est le plus important dans le film. Voilà ce que j'avais à dire sur ce film, que j'encourage les gens qui nous écoutent à aller voir, parce que je suis sûr qu'il va les émouvoir, comme il a ému les gens qui étaient autour de moi quand j'y suis allé. Il y a une chose qui ne trompe pas, à la fin du film, personne ne s'est levé. D'habitude, il y a des gens qui se lèvent en cours de générique, là, personne. Ce qui montre que les gens ont quand même été très réceptifs à ce film.
Merci René, donc un film utile, on l'a bien compris. C'est à l'affiche Au Nazir à Aubenas, c'était à l'affiche au Vence d'ailleurs, projeté hier, et ce sera à Barjac dans quelques jours. Pas de réaction autour de cette table, peut-être.
Il a raison, Alexis. Personne s'est levé hier soir. Tout le monde est resté jusqu'à la fin et tout le monde était ravi du film. Donc il a raison.
Et oui, puisque toi tu as assisté à la séance plus qu'au film.
Exactement.
Voilà. Et peut-être que tu nous en parleras si jamais tu le vois d'ici là, la prochaine fois. Allez, donc au boulot, vin Dieu.
Tatane.
Il est quelle heure?
8h45.
On partirait quelle heure déjà?
8h30.
Anthony, c'est ça?
Toton.
Tu sais conduire un camion?
J'ai déjà conduit celui de mon père.
C'est toi le nouveau?
Oui.
T'es en retard, allez grouille, pas que ça va foutre.
Adieu. T'es pas doué, toi.
T'habites tout seul?
Avec ma soeur.
Alors?
Vous en pensez quoi, vous, de celui-là?
Qu'est-ce qu'il en sait, lui, il est là pour faire le ménage.
Oh, ta gueule,
oh. Allez, casse-toi, c'est bon.
Honte.
Non.
T'as une sale tête.
C'est pas parce que toi tu peux pas que moi je peux pas.
Comment ça?
Quoi?
Qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ce truc d'Obélix là? Je veux du fromage. Si je me fais le compte d'or, je te le place 30 000 balles mon gars.
Tu vas jamais la gagner la médaille Toton.
Pourquoi? Ah Dieu.
Pourquoi que tu veux te lancer là-dedans, toi?
C'était le métier de mon père, il a claqué, alors... Ouais. Puis je sais pas quoi faire d'autre.
Pardon, Toton.
Fais chier! Bah, c'est mal parti, si tu penses comme ça. C'est dans ta tête, ça.
On s'est offert un petit voyage au cœur du Jura avec Vin Dieu de Louise Courvoisier. Et les jeunes acteurs qu'on a entendus, Clément Favot, Maïwenn Barthélémy et Luna Garay. Clotilde, tu es allée voir Vin Dieu?
Oui, je suis allée voir Vin Dieu. Et bon, pourquoi j'y suis allée? Parce que c'est un premier film et j'aime bien les premiers films. C'est souvent plein de... Enfin, je sais pas, c'est dense en émotions. Mmh. Et là, on y est complètement. Bon, ouais, c'est son premier long métrage et il a été quand même acclamé... par la critique, à Cannes, il a eu le prix Jean Vigo, donc c'est le prix de l'audace dans la réalisation. Et c'est vrai qu'elle le mérite, c'est un beau film, un récit initiatique. Mais alors aussi avec un casting sauvage, hein, tous les acteurs que tu viens de citer, c'est des enfants, enfin c'est des jeunes du pays. Mmh. D'où vient Louise Courvoisier, hein, c'est important de le dire. Elle a voulu écrire ce film autour de l'univers dans lequel elle a grandi, dans le Jura donc. Et voilà, et c'est la manière qu'elle a choisi d'aller chercher des personnes, des comédiens là-bas. Notamment, je pense, pour l'accent qui est... Ouais. À déguster hein, pendant le film. Je ne sais pas si tu es d'accord, Sophie, mais oui.
On l'a entendu un petit peu là, dans la bande-annonce.
Et puis, voilà, elle a aussi décidé de filmer la beauté assez naturelle donc des personnes et des paysages. Et en fait, c'est vrai qu'elle s'applique à peu près à tous les niveaux dans le film. C'est-à-dire au niveau de la musique, de l'image, on a un beau scope, des grands plans. Voilà, le Jura, c'est plein de plateaux assez immenses. Donc voilà, ça rappelle un peu l'immensité des États-Unis. Et puis des plans très serrés sur les personnages, donc très intimistes, avec des belles lumières qu'elle décrit comme... Enfin voilà, ils se sont appliqués à mettre en lumière de manière naturelle, pas trop s'appliquer, récupérer la lumière naturelle pour bien l'orienter et tout. Donc tout est assez beau, la musique aussi emprunte au western. En fait, on se sent bien pendant ce film et voilà, les personnages sont hyper attachants dès le début, quoi.
C'est intéressant, hein, cette manière artisanal de faire du cinéma. Je pense que ça peut aussi donner la confiance à des jeunes réalisateurs ou réalisatrices en se disant mais on est complètement en dehors des circuits mainstream, comment on fait ? Et là, elle a effectivement engagé, en fait c'est vraiment une histoire de famille, d'amis, une histoire du coin, tout le monde s'est découvert des talents, je sais plus si c'est sa sœur je pense pour les décors, d'autres pour la musique, enfin tout le monde s'y est mis et pour un final très professionnel. En fait, c'est ça aussi qui est assez intéressant, quoi.
Oui, c'est une histoire de famille. Ses parents étaient musiciens, donc c'est sa mère et son frère qui ont écrit la musique du film. Effectivement, pour les décors, il y a un de ses frères et une de ses sœurs. Et puis, des gens qu'elle connaissait, auxquels elle avait pensé particulièrement, comme une gardienne de prison qui joue celle qui fait la démonstration de fabrication du comté, ou la petite sœur... Elle y pensait fortement et puis donc elle avait vraiment très très envie de la faire jouer, donc voilà. Et c'est ce que tu dis, c'est vrai, on sent qu'il y a une espèce de rassemblement de tout cet univers dans lequel elle a grandi qui infuse là dans le film et c'est très c'est sensible, c'est agréable.
Et avec une vision donc de la jeunesse aussi qui est intéressante. On entendait là dans la bande-annonce, il y a forcément c'est un chemin initiatique, il y a une histoire d'amour et dans les relations justement garçon-fille, homme-femme, il y a ce qu'elle en dit qui est très intéressant.
Ouais. Parce que c'est vrai, il y a une forme de dénuement, moi j'ai trouvé. Ils sont lui particulièrement, le personnage principal Toton, il est livré à lui-même, mais finalement on sent un peu dans ce film que tout le monde est livré à lui-même, que vivre à la campagne c'est pas si évident que ça.
C'est pas de la cistana comme dirait Ruffin juste avant.
Ah là vraiment chacun se prend en main de la manière dont il peut finalement.
C'est ça, c'est vraiment ça, ouais.
Que ce soit Toton, que ce soit sa petite sœur, que ce soit Marie-Louise, je sais plus comment
Marie-Louise.
Ouais. Bref, tout le monde, ouais. Et cette espèce de débrouillardise là où on apprend finalement la vie à coup de bâton presque. C'est chouette parce que voilà, c'est clair qu'on commence le film dans un univers où on se dit c'est un peu borderline, ces jeunes qui fichent rien de leur journée, qui font la fête, c'est tout. Et puis qui finalement, avec toute leur façon de bricoler, ils savent, on pense qu'ils savent faire peu de choses, mais en fait, à plusieurs, hop, il y a une forme de magie qui s'opère. Et voilà, tout, rien ne sert à rien finalement. Enfin, c'est l'apprentissage assez empirique de la vie, quoi. Qui est beau à voir.
C'est ça. Qui est beau et qui est réjouissant. Ça invente d'autres manières de faire, de vivre, de relationner. C'est un conseil aussi pour moi.
Ouais, un vrai. En tout cas, c'était quand même le film de clôture des Rencontres des cinémas d'Europe de cette année. Louise Courvoisier était venue, la salle était comble, c'était aussi une super belle séance et on est ravis de le reprendre là et vraiment moi c'est un film que je conseille fortement à tout le monde.
20 dieux de Louise Courvoisier qui est à voir donc au Navire à Aubenas et à partir du 25 ce sera à Rosières puis au Teil. Allez là on passe dans un autre univers, là c'est plus une jeune pousse mais c'est un vieux, je sais pas, en tout cas il a de la bouteille, qui a fait un film justement sur le cinéma avec Spectateur.
Toi Delphine, tu es déjà allée au cinéma, hein ?
Oui, j'ai été avec toi, mamie.
Oui, et toi, pas encore ?
Non mais j'ai regardé des films sur ta télé. Ouais,
c'est vrai, mais tu vas voir le cinéma, c'est complètement différent.
J'avais trouvé ma maison.
Je peux y aller, c'est pour le ciné-club.
Allez-y, Dédé.
Merci beaucoup. Voilà, bonne projection.
J'étais enfin plus petit que les images que je regardais.
Le cinéma, c'est pas une réponse, c'est une question. C'est une façon d'interroger l'art, d'interroger le monde.
Une place pour cri et chuchotement, s'il vous plaît.
T'as quel âge ?
J'ai 16 ans, madame.
Qu'arrive-t-il à la réalité quand elle est projetée ? Eh bien, la réalité... Elle scintille.
Le point de vue de chaque spectateur est singulier, irremplaçable.
Tu vois, sans doute ce matin-là, j'ai su que je ferais peut-être un jour un film moi-même.
des films qui comptent pour moi, j'aime bien les voir plusieurs fois.
Combien de fois?
Je sais pas, trois fois.
Trois fois? Mais pourquoi?
Bah, la première fois, c'est pour découvrir, la deuxième fois, c'est pour admirer, et après, c'est pour apprendre.
Mais attends, qu'est-ce que tu regardes? C'est dans l'autre sens.
Oui, je sais.
L'écran nous a offert le monde en spectacle.
Spectateur de Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Dominique Paini et Clermont Hervieux Léger. Et il y a une effraction, Cathy, bienvenue, bienvenue autour de cette table. Alors on a parlé de vin dieu déjà, mais tu arrives, et c'est tant mieux, merci beaucoup.
Je suis vraiment désolée.
Non, mais tu es là, c'est génial. On allait parler donc de spectateur, et ça tombe bien, là ça va chauffer, donc d'Arnaud Desplechin, que tu es allé voir parce que vous le proposez au Vence, Alexis,
oui.
En avant-première.
Oui. On passe le film en avant-première, donc c'est... Spectateur, c'est une déclaration, enfin c'est un documentaire déjà, qui est une déclaration d'amour au cinéma, au cinéphile, au spectateur qui l'a été, qu'on est actuellement aussi. Hein. Et donc c'est en fait, il s'adresse plutôt aux amateurs d'essais visuels et de récits, un récit à thème sur l'art cinématographique. Alors je veux pas trop en dire sur le film parce qu'en plus c'est une avant-première, donc j'aimerais bien laisser découvrir le film au spectateur, justement.
Et puis avec la bande-annonce, on a déjà entendu pas mal de choses.
Hein, exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est un mélange d'expériences, on va dire, que lui il a vécu, et de moments forts qui sont, il rediffuse quelques extraits de films qui ont été cultes en fait dans sa jeunesse à lui. Mm-hmm. Donc c'est très très intéressant. Il y a un mélange de tout. Et donc ça a été aussi un prétexte pour nous de faire un ciné-débat, parce qu'il y a très peu de films qui parlent de la salle de cinéma en soi, et donc je trouvais ça important de faire un ciné-débat par la suite. Alors pas forcément sur les spectateurs en soi, sur ce film, mais plutôt sur les coulisses du cinéma, sur la salle de cinéma, comment on gère un mono-écran. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir les différences entre un mono-écran, un multisalle. Il y a des enjeux différents, et aussi l'évolution du cinéma, de passer de la pellicule au numérique, comment ça s'est passé, les différentes choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi je suis jeune, donc j'ai vécu certaines choses, mais j'ai pas vécu forcément la bobine. J'ai vécu la transition.
Et ça se passe bien.
Ça se passe bien, oui. Mmh. Ouais. Après, il y a toujours ces petits couacs avec le numérique, mais c'est différent, c'est complètement différent. On n'a pas du tout la même, il y a plus du tout le même artisanat, on va dire.
Alors justement, on va parler de tout ça parce que je pense qu'on ne l'a pas dit, cette avant-première, donc c'est le 15 décembre, c'est ce dimanche, et donc tu as parlé du débat après qui est intéressant. Moi j'avais une question, mais pour toi Cathy, puisque tu viens d'arriver, spectateur, quand je t'ai dit qu'on allait parler aussi de ce film d'Arnaud Desplechin, tu as eu, est-ce que je peux dire, voilà, tu fais la même chose, il semblait que tu avais levé les yeux au ciel, et là tu as fait une mimique, parce que il y a une question qui se pose justement sur le réalisateur problématique, Arnaud Desplechin. Et je trouve intéressant qu'on en parle justement, et qu'on essaie peut-être de débrouiller, parce que finalement tu es la programmatrice du festival, enfin des Rencontres de Cinéma d'Europe, tu as été aussi exploitante, gérante, je ne sais pas comment on dit, de salles de cinéma. Du coup ça amène aussi des questions, comment on choisit ou pas un film? Alors est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi ta réaction, tu as eu cette réaction face au film d'Arnaud Desplechin?
Oui, parce que il y a des en fait des suspicions, enfin pas suspicions, je ne sais pas comment.
C'était avéré,
avéré d'harcèlement, en tout cas moral, sur son ancienne compagne.
Marianne Denicourt.
Voilà. Et effectivement, alors c'est une question que l'on se pose bien sûr tous en tant que programmateurs, directrices, directeurs de salles de cinéma, sur ces films dits abîmés. Donc, quand le ou la cinéaste ou des techniciens ou des acteurs, actrices ont subi du harcèlement moral et sexuel, enfin, on en parle quand même beaucoup maintenant. Et il y a des dispositions qui sont prises, hein, directement sur les tournages, voilà, on en parle beaucoup aussi avec le collectif 50-50 qui œuvre dans ce sens. Il y a des formations qui sont également imposées maintenant. Bon, bref, il y a beaucoup de mesures qui sont prises maintenant. Pour autant, il y a deux choses. Il y a donc les films de répertoire, c'est-à-dire maintenant, est-ce qu'on décide, mais ça c'est vraiment selon ses propres convictions, hein, il n'y a pas de réponse à ça. Soit, par exemple, si on prend le cas de Roman Polanski et de toute sa filmographie, ben, en tant que programmateur, trice, on dit non, on écarte absolument et on ne diffusera plus dans sa salle de films de Polanski. Ou on dit, bon, on estime que quand même c'est un grand cinéaste, qu'il a fait des œuvres, des chefs-d'œuvre cinématographiques et que c'est important quand même de les montrer, mais on va mettre un carton explicatif, attention, voilà, à l'attention du public pour qu'il sache que. Voilà, il y a plein de mesures qui peuvent être prises, mais après, on le fait vraiment, on va dire, en son âme et conscience. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de règles. C'est chacun, chacune qui va décider, en fait. Moi, ça me gêne toujours un peu de défendre une œuvre si la personne est accusée, s'il y a des plaintes, s'il y a une... Tu vois, enfin, selon les étapes, ça me pose quand même un peu question, mais il y en a beaucoup dans le cinéma français depuis.
C'est ça qu'ils sont faits.
Voilà, il y en a quand même de plus en plus. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont incriminés. Il y a des cinéastes. Il y a bon et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a la connaissance qu'on en a et la décision qu'on peut prendre au moment. Et puis, il y a des affaires qui sortent, comme, bon, il y a eu sur le film Les Amandiers. Mmh. C'était vraiment au moment de sa sortie que l'affaire a éclaté. Donc,
tu nous rappelles
bah, Les Amandiers, bah, en fait, c'est l'acteur principal du film qui était... qui a fait l'objet de plaintes, enfin, ou qui a eu des comportements inadaptés avant et même sur le tournage, mais je crois que c'était... Mais qui était quand même complètement défendu par la réalisatrice. Voilà, exactement, Valéria. Et donc, il y a des salles qui ont, au moment, ont déprogrammé le film directement, d'autres qui ont fait le choix de le garder. Bon, voilà, c'est... Il n'y a pas une décision, c'est vraiment en son âme et conscience. Quoi,
et, mais... ouais, et c'est ça, et ce qui est compliqué du coup pour vos métiers,
c'est
Alexis.
C'est un sujet complexe en plus. Il y a toujours, je me souviens, j'ai une expérience où j'avais été au congrès à Deauville et on avait passé le film de Polanski, J'accuse. C'était juste avant que l'affaire elle éclate, parce que il s'était fait applaudir à Deauville.
Il y a
plusieurs affaires, malheureusement. mais là, ça a été, on va dire, le pompon. Et en fait, avec J'accuse, je crois qu'il sortait trois semaines après où le film a explosé. Et alors, le film pouvait être de très bonne qualité, mais il y a eu une explosion par rapport à ça. Il y a eu un boycott du film. Vis-à-vis de tout le monde, hein, vis-à-vis des spectateurs, il y a eu des salles aussi. Et c'est vrai qu'on sur des sujets comme ça, moi je serais tendance à dire je prends parti de pas diffuser le film. Alors l'information que je n'avais pas pour spectateurs déjà, donc c'est aussi des fois on peut pas tout savoir non
Bien
plus,
sûr.
Malheureusement. Et puis des fois on est surpris. Y a des films voilà qu'on a vus qui ont fait ma jeunesse et après on apprend. Moi les films de Woody Allen par exemple ont fait ma jeunesse. Quand on voit ce qu'est le monsieur et on se dit bon ben est-ce qu'on a tort d'avoir aimé ces films? Alors faut pas remettre en cause le pourquoi on a aimé ces films, mais c'est éthiquement parlant de se dire bon, maintenant, est-ce qu'on irait voir ces films maintenant? Parce qu'ils ont fait notre jeunesse, donc c'est trop tard, entre guillemets. Mais est-ce que maintenant, on les programmerait? Voilà, la question, elle est là. De toute façon, la question ne se pose quasiment plus, parce que, par exemple, Woody Allen, il est quasiment plus programmé en France. Quasiment plus. Enfin, voilà.
Fait-il encore des films?
Il fait encore des films, oui.
Il est sur la fin. L'année dernière, encore.
Oui, mais c'est des petits distributeurs.
Polanski a fait un film cette année.
C'était Royal Palace.
Et il a trouvé quand même des financements.
Ouais.
Il a trouvé un distributeur qui s'est dit « je vais faire le buzz parce que c'est Polanski ». Et en fait, ouais. Il a pas compris, enfin, il a un peu mal anticipé, ce distributeur, que en fait, aucune salle n'allait prendre le risque de programmer un Polanski, avec derrière ce que ça va entraîner comme, bah, comme réaction en chaîne, ce qui est tout à fait logique. Donc ça c'est... En fait, le film est sorti, a été financé, mais n'a pas été programmé, donc a fait un bide.
Parce que pour revenir de manière plus générale à la question et du débat, comment on exploite une salle ? Donc, c'est-à-dire que vous, programmateur, exploitant, gestionnaire, bref, vous avez toute l'attitude de programmer. Comment ça se passe, en fait ? Comment vous choisissez les films ? Je ne sais pas qui veut répondre.
Ça dépend des salles, déjà.
Alors, oui, il y a différentes étapes, on va dire, selon l'importance du cinéma. Un mono-écran et un multiplex n'a pas une même force de frappe.
Non, pas une même force de frappe. Et puis, il y a aussi des programmeurs indépendants. Et il y a aussi, nous, on passe par une association de programmation qui nous aide à négocier les films, parce qu'en tant que mono-écran, on n'a pas de force de frappe, ou très peu. Ce qui fait qu'en fait, on est adhérent d'une association qui a 30-35 cinémas, alors pas dans le territoire, mais plutôt dans le territoire ouest de la France, et qui, avec sa force de frappe de 30 cinémas, en fait, va aller demander des copies de films, qui va lui permettre de justement avoir 2-3 copies par cinéma. Non, pas par cinéma, par groupement, par zone, oui, voilà. Et c'est pas toujours évident. Donc nous, en tant que mono-écran, déjà souvent on passe en arrière-plan. Donc c'est-à-dire que dans ce groupement-là, il y a 2 multiplexes. Donc déjà, les 2 multiplexes se servent avant. Donc entre guillemets, ils prennent les copies en première, deuxième semaine, et nous on va aller sur la troisième, quatrième semaine de sortie de la salle d'exploitation du film. Et donc en fait, ce qui fait que on peut être entre guillemets en retard. Alors est-ce que pour un mono écran c'est nécessaire ? La question elle est là, parce que de toute façon on a des contraintes distributeurs qui nous disent il faut faire tant de séances dans la semaine pour avoir le film. Là, on parle en général en troisième semaine, par exemple, pour un mono-écran, c'est entre 4 et 5 séances. Et Disney, par exemple, moi j'ai l'exemple de Mufasa ou de Vaiana, en troisième semaine, on nous demande 7 séances. Pour un mono-écran, c'est difficile de gérer ce nombre de séances, parce que déjà, on est fermé 2 jours dans la semaine, donc déjà, ça vous fait 2 séances par jour pour le film. Parfois. Donc c'est compliqué, c'est des décisions qu'il faut prendre en compte et de se dire bon mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends le film en troisième semaine et du coup par exemple un Disney pendant les vacances scolaires, faut essayer de le prendre le plus tôt possible parce que sinon les gens, ce public-là en fait il s'en va très vite. Donc c'est-à-dire que bah, ils se déplacent dans tous les autres cinémas parce qu'ils ont envie de voir le film tout de suite, ils ont pas envie de se faire spoiler sur les réseaux, etc. Donc en fait nous on a presque le devoir de les ramener vers nous et de dire attendez on propose le film assez tôt. Et faut pas oublier que le cinéma on est là aussi pour la culture, mais on est aussi un commerce, donc on doit exister. Donc on doit forcément faire venir le public qui consomme aussi autant de la culture que de la confiserie, etc. Parce qu'il faut pas l'oublier. Et donc, c'est aussi les problématiques. Je ne sais pas si tu peux rebondir ou si tu as des...
Oui, bah, c'est-à-dire que c'est surtout les distributeurs qui font quand même bien la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que c'est eux qui ont la force de frappe et il faut bien réguler aussi. Donc avec le numérique, on a pu imaginer qu'on aurait un accès, et les mono-écrans ont un accès aux copies beaucoup plus simple
que des bobines physiques.
Avant, bien sûr, qu'à l'époque du 35. Pour autant, il faut quand même une régulation, sinon toutes les salles voudraient passer les mêmes films, c'est-à-dire effectivement ceux qui sont censés faire des entrées, et pas forcément avoir une ligne éditoriale sur de l'art et essai plus. Donc ça permet aussi de réguler les accès aux copies, et donc effectivement selon sa taille de cinéma, on a les films en sortie nationale, on a ou en troisième ou quatrième sortie. Nous par exemple sur le circuit itinérant, on a rarement les films avant la quatrième voire la cinquième semaine d'exploitation, donc après la sortie du film. Mais par exemple, le navire a beaucoup plus de facilité à Aubenas avec 6 salles de sortir les films en national que, évidemment, en circuit itinérant ou le cinéma des Vences. Mais il ne peut pas non plus tout sortir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 15 à 20 films qui sortent chaque semaine. Et donc, même quand on a 6 salles, on ne peut pas, honorer toutes les sollicitations qui sont faites, quoi. Mmh. Et donc, voilà, il faut réguler tout ça. Donc, il y a une espèce de chronologie plus ou moins logique, on va dire.
Eh oui, eh bien la chronologie logique, c'est-à-dire que dans 20 secondes, on rend l'antenne. Donc il faut réguler tout ça. Je suis désolée, merci beaucoup. On se pose plein de questions. En tout cas, si vous voulez justement débattre et puis comprendre un petit peu mieux comment se passe la vie, les coulisses d'un cinéma, allez le 15 décembre au Vent, c'est à quelle heure?
C'est à 17h, le film 17h et après le débat.
Et après le débat. Et puis tu reviendras peut-être, j'espère, demain pour faire pour faire le contrepoint et parler des femmes au balcon.
Oui, il faut absolument en parler.
On se donne rendez-vous vendredi prochain pour parler notamment des femmes au balcon de Noémie Merlant. Allez voir aussi ce soir Trois amis d'Emmanuel Mouret à 20h30 à Tueil, à la salle de la Vesprade, mais aussi à l'USAS. Mais comment font-ils cette ubiquité? La maison, l'image, ils sont partout. Et mardi 17, je rappelle, le ciné-piscine au centre aquatique l'Hippocampe d'Aubenas autour du film Sirocco et le royaume des courants d'air de Benoît Chieux. Ce sera à 19h. Donc mardi, il faut réserver et apporter son bonnet. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans ce studio. Et merci Sylvain. Ciao.
Merci.